Alors, je crois que toi, tu as aussi été au cinéma, Céline.
Ouais, et je vous propose qu'on reste de l'autre côté de l'Atlantique, bah, alors dans un univers quand même complètement différent, parce que je voulais vous parler du nouveau film de Tarantino qui est sorti la semaine dernière, Django Unchained, dans lequel Tarantino en fait revisite le western, puisque c'est l'histoire improbable d'un esclave noir qui va casser du blanc en fait dans les plantations de coton, puisqu'en fait, Django, donc c'est le nom de cet ancien... très rapidement ancien esclave noir. Il fait alliance avec le docteur Schultz, un Allemand émigré aux États-Unis. Et dans le sud des États-Unis, 2 ans avant la guerre de sécession, ils deviennent tous les deux chasseurs de primes. Donc, histoire improbable qui dure 2h50. Donc, on a bien le temps de s'ennuyer. Et en fait, on ne s'ennuie pas. Donc, ça, c'est même si... Alors,
c'est plutôt positif, le fait de ne pas s'ennuyer.
Tout à fait, c'est très positif. Alors, je précise qu'on ne s'ennuie pas, même si le film ne passe pas le test de Bechdel.
Ah oui, il n'y a que des hommes, c'est ça.
Voilà, donc le test de Bechdel, petit rappel, c'est pour voir en fait quelle est la position des femmes dans un film. Et en fait, selon... Enfin, les 3 critères pour qu'il y ait une place quand même... juste normal ou acceptable des femmes dans un film, il faut donc qu'il y ait 3 conditions, qu'il y ait au moins 2 femmes qui soient identifiées, qu'elles parlent entre elles, et qu'elles parlent entre elles d'autre chose que d'un homme. Donc là, en fait, dans ce film-là, il y a 2 femmes qui ont un prénom, et en fait, elles ne parlent jamais ensemble, et elles sont juste liées à des hommes, quoi. Donc, le film ne passe pas le test de Bechdel, mais, alors, comme j'avais dit il y a quelques semaines, là, on parlait de Foxfire, c'est pas non plus parce qu'on passe le test de Bechdel qu'on est un film féministe. Mais bref, ce film, donc, Django Unchained, ne passe pas le test de Bechdel, ce qui n'est pas très grave, puisque quand même, on prend du plaisir. Et donc, ça m'a inspiré quelques réflexions sur le plaisir au cinéma. Donc, pourquoi, enfin, à quoi on prend du plaisir, notamment dans ce film, et parfois, à quoi on ne prend pas de plaisir et pourquoi. Alors, le plaisir, en regardant Django Unchained, c'est... Bah, alors, c'est bon, ça vient d'éléments assez classiques. Hein. Il y a des très bons acteurs, il y a des très bons dialogues, le rythme du film est très bien, les paysages aussi. C'est une histoire de revanche jubilatoire. Mais surtout, enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça, en fait, c'est un jeu sur les attentes. Donc, il y a un jeu constant de Tarantino avec le spectateur sur les attentes, donc par rapport à ce à quoi on s'attend... en allant voir un western qui introduit en fait énormément d'humour et de distance, et c'est de là que vient le plaisir. Alors j'ai relevé quelques exemples. Donc par exemple, le rythme du film, en fait, c'est annoncé, le contrat de départ annoncé, c'est que les 2 personnages vont devoir trouver les 3 frères Brittle, donc ils vont devoir trouver 3 blancs qui ont une plantation de coton, et ils doivent les tuer. Donc au départ, on s'attend à ce que ce soit ça, et puis en fait, ça c'est réglé... En une demi-heure, 3 quarts d'heure, en fait, ça y est, ils ont désingué les 3 gars, ça n'a pas été trop compliqué. Et en fait, Tarantino nous propose de passer à autre chose de complètement différent. Et donc, il renouvelle comme ça la promesse du film. Donc ça, c'est un premier exemple de jeu avec les attentes du spectateur. Deuxième exemple, assez courant chez Tarantino, mais toujours source de plaisir, en fait, c'est le jeu avec le sang. Donc le sang, il y en a toujours trop, il gicle toujours trop fort. Et il y a toujours trop de sang, quoi. Alors, on s'y attend un petit peu parce que c'est Tarantino, et en même temps, il fait de la surenchère, il exagère. Et ça, c'est assez jouissif, on y prend aussi du plaisir. On reconnaît Tarantino qui nous montre un western, et puis en même temps, il nous dit « Ouais, je fais du cinéma et je m'amuse en faisant du cinéma ». Un autre exemple, c'est aussi assez courant chez Tarantino, c'est inspiré des Pink Movies, ces films japonais érotico-porno japonais soft qui ont inspiré Tarantino, le contraste entre la musique et les scènes. Donc effectivement, il y a Morricone qui a composé, je crois, un morceau pour ce film, mais le parti pris de Tarantino aussi, c'est de jouer du contraste anachronique du coup entre la musique et puis certaines scènes de western. Et puis enfin, dernier exemple que je voulais donner, c'est la fameuse, en tout cas dans les commentaires qu'on entend sur le film, la scène des cagoules. Alors je précise que je crois qu'il y a quand même un petit anachronisme dans le film, puisque, enfin, un parmi tant.
C'est pas la question, voilà. Tarantino. Hein.
C'est ça. Puisque, non, mais c'est intéressant quand même de préciser que le Ku Klux Klan n'existait pas avant la guerre de sécession. Mais bon. Et voilà, et donc la scène des cagoules, c'est une scène absolument jouissive puisqu'elle tourne court en fait à cause de discussions triviales. Et donc là encore, on a une sorte de double effet en fait pour le spectateur qui à la fois c'est drôle parce que c'est des personnages ridicules, et puis aussi c'est parce qu'on s'attendait à une grande scène de nuit avec des flammes et plein de figurants. Et en fait, c'est réduit à des discussions où les personnages ergotent sur leur cagoule et le fait qu'ils n'arrivent pas à voir avec leur cagoule, quoi. Et donc en fait, dans tout ce film, on a tout au long du film des jeux comme ça avec les attentes du spectateur qui font en permanence ressortir qu'on est au cinéma. Donc, du coup, Tarantino nous rappelle toujours sa présence très forte en fait comme réalisateur en jouant avec les codes du cinéma. Alors, d'ailleurs, petite remarque en passant qui fait écho à ce que tu disais, hein, parce que j'ai vu que Spike Lee avait tweeté, il n'était pas content en fait de ce film, il a dit qu'il trouvait ça pas bien et que ça rendait pas hommage à ses ancêtres, que ses ancêtres avaient été esclaves et que ça manquait de respect pour, enfin que Tarantino manquait de respect à ses ancêtres. Moi j'ai trouvé que justement Tarantino proposait autre chose, que ça tenait complètement la route et que du coup c'était pas vraiment gênant en fait qu'il n'y ait pas cette dimension historique fidèle, mais cela dit, je suis tout à fait prête à en discuter si Spike Lee apporte plus d'éléments, parce que le tweet était quand même un peu court. Donc, sur le plaisir, parce que je reviens au plaisir. Du coup, sur le plaisir, voilà, donc moi, vraiment, le plaisir que j'y ai pris, c'est le jeu sur les attentes. Et alors, j'ai pris beaucoup de plaisir dans la plus grande partie du film, jusqu'à ce que arrive à peu près un des seuls personnages féminins du film, puisque c'est un western, et dans ce western, il y a un héros qui va sauver sa femme. Et le problème, c'est que dans tous les plans où il y a cette femme, en fait, il n'y a plus du tout de jeu sur les attentes du spectateur. Et au contraire, il n'y a plus aucune distance, en fait. Au contraire, on a une femme qui est juste belle à tomber, et à part ça, elle pleure, elle crie, alors c'est pour des bonnes raisons, hein, mais elle pleure, elle crie, et puis elle regarde son mari avec des yeux de biche, donc son mari ou la caméra, en fait. Donc en fait, c'est juste un personnage de nana, complètement passive, enfin sans aucun intérêt. Et comme dans une grande partie du film, on a été habitué en fait à avoir un regard, un regard sur le cinéma, en fait. Il y a l'histoire, et puis il y a aussi le cinéma en train de se faire, le cinéma que nous propose Tarantino, un jeu sur les codes de genre, de genre du cinéma, des personnages. Et bien là, en fait, j'ai été vachement déçue en fait quand il y a eu ce personnage. Je trouvais qu'il y avait plus de distance. Il n'y avait plus d'effort de mise à distance des codes. Et en fait, on voit du coup, parce qu'on est un petit peu toujours dans cette posture du spectateur, enfin de la spectatrice, qui à la fois regarde le film qui raconte une histoire, et puis regarde un mec qui s'éclate, un réalisateur qui s'éclate à raconter son histoire, quoi, Tarantino. Et en fait, quand on voit la nana, on voit la nana qui regarde le mec avec des yeux de vache malade, et puis on voit Tarantino qui fantasme sur une meuf qui regarde sa caméra avec des yeux de vache malade. Donc en fait, sur une meuf complètement potiche qui l'admire, lui, comme cinéaste. Enfin, en tout cas, c'est vraiment l'impression que j'ai eue. Ce qui culmine un peu dans la scène finale où elle applaudit à deux mains Django, qui a mis le feu à la maison et qui l'a fait sauter, qui est une espèce de scène de grand final. Et qu'on peut voir quasiment comme une métaphore du film, enfin, et qui était... c'est pas trop spoiler quand même, parce que bon, je vois Alex qui fait des signes. Et voilà, et du coup, il y a le double niveau qu'on avait d'être dans l'histoire et puis être en train de regarder Tarantino au cinéma, en fait, là, tout d'un coup, on se dit, en fait, c'est un peu Tarantino tout nu, c'est un peu médiocre, c'est un peu... En fait, c'est un peu comme s'il nous disait « Je suis juste un mec qui fantasme sur des nanas potiches qui vont m'admirer, quoi. » Et en fait, moi, j'ai été même quasiment un peu gênée pour lui, quoi. J'avais envie de me dire « Bah, tu sais, mec, remonte ton fut, passe un t-shirt, rhabille-toi, quoi. Je suis pas venue te voir à poil. » Donc, voilà. À part ça, c'est un film pas mal, mais bon, voilà.